autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur les codes secrets omniprésents dans nos vies numériques, dans nos cartes bancaires, nos téléphones portables ou nos box internet. Tout désormais se chiffre, se code et se crypte. Même si ce procédé ne date pas d'hier, vieux comme l'humanité ou presque, cher à César comme aux Templiers, les codes secrets ont déclenché des guerres et ramené la paix, servi à dissimuler des correspondances amoureuses comme des secrets d'État. Pourquoi et comment décrypter tous ces codes secrets en compagnie de notre invité, le mathématicien Hervé Lenning, fou de cryptographie, qui vient de publier la Bible des codes secrets, carrément du code de Baravelli à l'algorithme RSA, du mystérieux manuscrit de Voynich aux clés quantiques, en passant par Enigma. Autour de la question « Pourquoi utiliser tant de codes secrets ?» Bienvenue pour partager quelques clés de cryptage et de décryptage. Et oui, autour de la question aussi peut se crypter, c'est bien ça qu'il faut dire, par stéganographie. Un peu de patience, chers amis auditeurs, nous décrypterons ensemble ce qu'on vient d'entendre au cours de cette émission, mais pour l'instant c'est encore un peu secret. Bonjour Hervé Lenning.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Je crois que même un fou de cryptographie comme vous a besoin d'une clé pour décrypter un message sonore comme celui que nous avons entendu à l'instant. Merci donc d'être avec nous autour de ce livre, La bibliothèque des codes secrets, ouvrage unique en son genre que vous publiez aux éditions Flammarion. Alors je rappelle Hervé Lenning que vous êtes mathématicien, expert et spécialiste en cryptographie. Vous êtes membre de l'association du chiffre et de la sécurité informatique. Vous avez entre autres percé les secrets de la boîte à chiffrer d'Henri IV. D'où vous vient Hervé Lenning ce goût, cette passion et aussi cette capacité à décrypter, déchiffrer et créer des codes secrets?
Le goût, j'ai connu les codes secrets assez jeune, avec les éclaireurs, les jeux de pistes. Enfin, ce n'est pas des codes secrets très méchants. C'est dans l'enseignement que j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai suis professeur de mathématiques, mais j'ai fait beaucoup d'informatique. Et je me suis trouvé au départ en école d'ingénieur. Donc, j'ai été chargé de l'informatique parce qu'il n'y a pas personne d'autre, finalement, de volontaire pour le faire. Et ce que j'ai trouvé comme exercice pour les étudiants, c'est des codes secrets. Et je me suis bien amusé, ça les passionnait.
Vous les avez créés et vous les avez fait décrypter, vous avez fait décrypter à vos étudiants ces codes secrets.
Et j'en faisais programmer des codes comme le code de visionnaire, enfin des codes dont je parle dans le livre, pas des codes très compliqués.
Enfin tout de même, moi qui ai lu votre livre, vous donnez plein d'exercices, ce sont de sacrés casse-têtes et c'est fait pour, j'imagine. Omniprésents, ces codes informatiques, vous l'avez dit, aujourd'hui et dans nos vies numériques, on sait moins tout de même qu'ils ont toujours existé, même si aujourd'hui les codes ont changé. Il est très intéressant de se replonger dans la grande histoire des codes secrets. C'est presque, en vous lisant Hervé Lenning, une histoire parallèle d'espionnage, de guerre, d'amour secret, de chiffrement et déchiffrement du monde. Ce sont des clés que vous voulez nous donner, à tous les sens du terme, pour y voir plus clair.
Le lecteur moyen va s'intéresser à l'histoire, surtout, je pense, et voir en fait l'influence. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'influence n'est rarement connue, parce que l'influence dans la guerre, par exemple, c'est que il y a un secret défense qui dure 50 ans. Les Allemands ont appris que les Français décryptaient leurs messages pendant la Première Guerre mondiale, je dis bien la première, pas la seconde, en 1968, 50 ans après 1918. Les historiens avaient déjà écrit toute l'histoire de la guerre et je pense qu'ils n'ont pas tenu beaucoup compte du décryptement. J'ai pas vu de prise en compte de ce décryptement.
Qui a pourtant changé le cours de l'histoire et permis des victoires comme des défaites.
Dans la Première Guerre mondiale, effectivement, la fin a été au moins raccourcie par le décryptement des messages allemands. On savait où aller attaquer les Allemands, etc. Donc, et comment. Donc C'est vital.
Vital, outil incroyable. Autour de la question pourquoi tant de codes secrets? Alors précisément parmi les multiples exemples que vous partagez, Hervé Lénig, dans cette Bible des codes secrets, notre réalisateur Hugo Violas a fait une petite sélection sonore, mix historique et forcément cryptographique.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
C'est le bruit là, je croyais que c'était du code.
Quel code?
Le code des éclaireurs.
Mais je connais moi, c'est la vipère et la chouette.
Non, c'est le mot de passe.
Mais alors le code c'est quoi?
Le code c'est le code.
Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là.
Dans les années 70, au MIT à Boston, il y a trois chercheurs en informatique qui ont mis au point un système de cryptographie qu'on appelle asymétrique. C'est ce qu'on appelle l'algorithme RSA du nom des trois inventeurs.
Tu tapes ton code d'accès.
Tape ton 1. Voilà.
Ta photo.
Commençons par le code César. César l'utilisait pour ses propres correspondances. Le fonctionnement est aussi simple que redoutable, il suffit de décaler les lettres d'une ou plusieurs lettres.
Ce texte est un ouvrage mystérieux dont les premières traces remontent à 1912, lorsqu'un antiquaire nommé Wilfried Voynich l'a acheté. Il est rédigé dans une écriture inconnue que de nombreux spécialistes ont essayé de décoder sans succès.
Comment faire ? Pour retenir les quatre chiffres qui constituent le code secret de ma carte bancaire.
Les secrets qui ont changé de main aujourd'hui sont en fait une série de chiffres qui désignent les cibles et qui signent l'ordre présidentiel. Il existe donc plusieurs messages codés.
Ah ça y est, ça me revient. Le reste du code. B13.
Ils ont remplacé les anciens procédés par une machine baptisée Enigma. Pour casser un seul de ces messages par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant un an.
Alors là, c'est carrément en morse qu'on vous dit bienvenue sur RFI, Hervé Lénig. Je ne crois pas que vous ayez eu le temps de le décrypter, mais c'est, en tout cas, c'est vous, avec votre Bible des codes secrets, qui nous avez donné précisément le goût du secret, des multiples codes secrets utilisés par les hommes depuis l'Antiquité, depuis Homère. Ce procédé est presque aussi vieux que l'humanité. Il y a eu le code César dont on a entendu parler, mais vraiment, les hommes ont toujours usé de codes secrets.
Toujours, je ne sais pas, mais quand ça a commencé, mais déjà ça avait commencé avec César, mais sûrement avant. On trouve des écrits grecs qui sont antérieurs à César ou qui décrivent des codes secrets.
Et ensuite, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que, alors, ils étaient plutôt réservés aux puissants quand même, les codes secrets. C'était pour des raisons militaires, diplomatiques, voire pour masquer des correspondances amoureuses, mais ils étaient plutôt réservés aux puissants.
Oui, enfin, déjà pour savoir lire, il fallait être puissant à l'époque.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, les codes secrets, déjà c'était un code secret en soi pratiquement, déjà de l'écriture normale. Donc, mais il y avait tout de même, dans les barbares, ils savaient lire le latin. Donc César avait imaginé, enfin je ne sais pas si c'est lui qui l'avait imaginé, mais il utilisait un code qui était un décalage de 4 dans l'alphabet. Donc A devient D, B devient E, etc.
Pour vous, c'est un code secret extrêmement simple, hein, Hervé Lénig. Parce qu'il y en a des plus complexes. Un de nos auditeurs à Yaoundé, il s'appelle Hervé, il demande, puisque votre ouvrage s'intitule « La Bible des codes secrets », est-ce que la Bible est écrite en langage codé? Est-ce que vous avez décrypté la Bible, Hervé Lénig?
Non, la Bible, enfin je connais le livre en question, c'est « Les codes secrets de la Bible ». Des gens confondent avec le mien. C'est une plaisanterie. Il n'y a pas ces codes secrets où on annonce la mort d'Indira Gandhi, etc.
Ça, c'est du fake. Ça n'existe pas.
C'est complètement faux. En fait, la méthode utilisée, on s'est amusé à l'utiliser sur d'autres livres, comme comme Moby Dick. Et on a trouvé exactement, pas les mêmes morts, mais des premiers ministres ou des présidents assassinés de la même façon.
Oui, on peut tout lire, on peut tout trouver si on cherche, si on déplace des lettres. Mais oui. En revanche, dans la Bible, il y a peut-être quand même certaines inversions, certaines dissimulations.
Alors, il y a un code, effectivement, de la Bible qui est utilisé pour cacher le nom de certaines villes. C'est le code Adbash qui renverse l'ordre et les lettres. Donc, je n'utiliserai pas comme exemple elle, parce que elle, ça c'est la même chose des deux côtés, mais lui, par exemple, ça viendrait IUL.
Et là, ce serait le code d'une ville qu'on ne connaît pas dans la Bible. Il faut reconnaître que les codes, ils ont aussi beaucoup été utilisés par des sociétés secrètes hein, pour coder leurs messages aussi. Donc, il y a tout un fantasme aussi, Da Vinci Code, les Templiers. Il y a aussi beaucoup de fantasmes attachés autour de ces codes secrets.
Les francs-maçons aussi. Mm-hmm. En fait, c'est pour cacher, c'est aussi pour se reconnaître en soi, entre soi, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai appelé ça le code des initiés. Dans le livre, dans la Bible des codes secrets, puisque ils étaient tellement peu secrets, ils n'étaient pas très secrets.
Leur code secret.
Les francs-maçons utilisaient un code qui est purement un code. Les codes les plus faciles à décrypter sont les codes par substitution simple. C'est-à-dire, vous remplacez A par une lettre, B par une autre lettre ou un symbole. Et. En fait, on sait se décrypter très, très facilement parce que on connaît avec les fréquences uniquement. Ou même le E étant plus fréquent.
Plus on a de messages cryptés, plus on peut les décrypter. Enfin,
Oui, parce que les fréquences deviennent évidentes. C'est-à-dire que si vous avez un message de 30 ou 40 lettres, vous allez peut-être reconnaître le E. Parce que le E est très fréquent, il est pratiquement 18%. Mais si vous, avec peu de lettres, vous ne reconnaîtrez rien. En revanche, si vous avez tout un livre comme ça, vous avez tout décrypté sans trop de problèmes. Avec en plus, on reconnaît des mots tout de même de temps en temps.
Et c'est comme ça qu'on y arrive. Enfin, vous m'avez fait une petite dédicace légèrement cryptée. J'ai mis un peu de temps à la trouver. Heureusement, il y a des pistes de réponse dans votre livre. Et puis, il y a aussi des messages tellement bien cryptés qu'on ne peut pas les déchiffrer, même des siècles plus tard. C'est le cas du célèbre manuscrit de Voynich, c'est ça ? Impossible à déchiffrer, à craquer, à décrypter.
Personne n'a réussi à la décrypter. Alors, il y a plusieurs hypothèses.
C'est un manuscrit qui a été acheté par un antiquaire.
Oui, c'est donc déjà on ne sait pas. Il viendrait du 15e ou 17e siècle, je ne me rappelle plus exactement de tête. Et en fait, on ne sait pas à partir de quelle langue il est déchiffré. Ça change tout si c'est du latin, de l'anglais, du français ou une autre langue qu'on connaît pas, qu'on ignore. Alors là, vraiment, on a toutes les tentatives ont échoué. Alors, une des hypothèses, c'est que ce serait un fake total
qui n'aurait finalement aucun sens.
Alors, il y a quelque chose qui milite pour ça, c'est qu'il est très bien décoré. Il y a un véritable herbier, des plantes qu'on voit. Donc on s'est dit, bon, ces plantes, on va les reconnaître par un botaniste et on va chercher le mot dans la page. Mais les plantes ne correspondent à rien, ne correspondent pas à des plantes réelles.
Elles sont inventées, ça serait un langage elfique ou des plantes elfiques comme...
Ça peut être une plaisanterie, ça peut être à partir d'une langue qu'on connaît pas, qui était une langue d'initiés, justement. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent dessus, j'en connais, mais pour l'instant, ils n'ont rien donné de concret.
Oui, il faut connaître la langue dans laquelle a été crypté le message, sinon impossible de le décrypter.
Oui, si je prends une langue de Martien, je ne saurais sûrement pas décrypter quoi que ce soit.
Autour de la question pourquoi et comment utiliser donc des codes secrets, tout de suite une autre question pour vous, soulevée par un autre mathématicien et formidable vulgarisateur de science sur son site Micmat. J'ai nommé Michael Launay, que vous connaissez. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Alors bonjour cher Hervé, je sais évidemment ta passion pour les codes secrets et pour tout ce qui est cryptographie et j'aimerais savoir si déjà tu t'es amusé à en créer certains et savoir quels sont selon toi les grands principes qu'il faut pour essayer de créer un code secret nouveau, quelles sont les règles générales qu'il faut absolument respecter.
Votre réponse, Hervé Lénine, même si vous n'allez pas tout nous dévoiler comme ça, mais...
ma réponse, bon, je n'ai pas créé de code au niveau de la NSA, des choses comme ça.
Vous n'espionnez pas le monde entier.
Oui, je ne suis pas intéressé vraiment. Ce qui m'amuse, c'est décrypter des petits messages. Alors, qu'on trouve dans certains journaux, qu'on trouvait dans certains journaux. Donc, je ne vais pas en parler maintenant, puisqu'il faut répondre à Mickaël.
Si, on peut en parler maintenant, parce que là, vous citez, je pense, des correspondances amoureuses cachées dans le Figaro, c'est ça, oui, hein, oui. Qui, moi, m'ont fait mourir de rire et que je ne connaissais pas. C'est des petits messages cryptés.
Oui, chiffrés. Donc, pour qui se donne des rendez-vous, alors, c'est des fois triste. Il y a toute une étude historique qui serait intéressante à faire. C'est pourquoi les gens chiffraient leurs messages. Bon, évidemment, c'est des amours adultères. Maintenant, le mot n'existe plus beaucoup parce que tout le monde.
Mais c'était bien avant Tinder, hein, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils sont assez étonnants, ces messages, parce qu'il y a des chiffres, des lettres, mais il y a des mots qu'on voit. Donc, c'est pour cacher le destinataire ou véritable ou le lieu du rendez-vous, alors, parfois, c'est ça, hein.
Donc, parfois, il y a une grosse erreur en cryptographie qu'on retrouve dans ces petits messages codés du Figaro. C'est de mélanger du clair, quelque chose de clair, avec du chiffré. Et il y en a un que j'ai décrypté assez rapide. Enfin, ils ne sont pas difficiles. J'aurais pu faire la méthode des fréquences. J'aurais pu trouver en collectionnant tous les messages chiffrés de la même façon parce qu'ils écrivaient beaucoup. Mais il y a une histoire, je ne sais plus. Il y a un message, etc. En clair. Je voudrais vous voir ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un petit message chiffré. Pourquoi chiffrer tout d'un coup? Alors, j'ai décrypté parce que, en imaginant que ce que la dame voulait cacher, c'était je t'aime.
Et c'est je t'aime qui était crypté, magnifique.
Qui était crypté. Et du coup, c'était bon nombre de lettres, etc. Et tout le code est tombé. Alors, pour revenir sur Mickaël, déjà une bêtise. Il y a
plutôt que de dire comment créer un bon code, vous dites qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il soit
déjà,
cassable.
Quand on utilise le code, souvent beaucoup de codes auraient été bons s'il n'avait pas été utilisé par des gens qui ne faisaient pas attention. Par exemple, et Napoléon l'a fait, les troupes de Napoléon l'ont fait régulièrement, c'est de mélanger du clair et du chiffré. Vous arrivez à quand vous avez du clair et tout d'un coup, il y a un mot chiffré.
Ah oui, vous savez que c'est là le
il y a qu'on veut cacher qu'on veut quelque cacher. Chose. Et pourquoi veut-on cacher
Donc, ne pas mettre du clair et du crypté. On a compris si on veut faire un code. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme règle à ne pas faire?
Alors, en fait, autrement, pour revenir à la question plus précisément, ce qu'il faut s'arranger, c'est trouver un code qui ne peut décrypter que par recherche exhaustive.
C'est-à-dire ?
Essayez tous les cas de figure.
Et là, c'est beaucoup trop long, donc on ne peut pas le...
Alors, d'abord, il faut qu'il ait une clé. La clé, donc, il est à fois assez longue.
La clé, c'est la manière d'ouvrir, de lire, de décrire, le procédé.
Le procédé. Alors, en général, c'est une clé. De nos jours, pour répondre à la question de Mickaël, de nos jours, ça va être une suite de 0 et de 1, très longue. Donc, il faut que le code soit fait de telle sorte qu'on prend cette clé de façon aléatoire et on se débrouille pour faire quelque chose qui ne puisse être décrypté que par recherche exhaustive. Ce n'est pas évident.
C'est pas évident, ça demande des grosses machines, et à ce sujet, et justement au sujet des codes qui ont changé avec nos grosses machines, avec notre ère numérique, avec l'informatique, je propose un petit arrêt sur l'image précisément d'Enigma. C'est la plus célèbre, hein, on va dire, machine de chiffrement qui a permis, grâce à Alan Turing, de craquer le code allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Extrait du film Imitation Game.
Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir.
Vous deviez être populaire à l'école.
On manque d'effectifs.
Eh bien, nous allons recruter du monde.
Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème.
C'est possible au moins ?
Non, moi il m'en faut 8.
5 minutes et 34 secondes.
Vous avez dit moins de 6.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Et voilà comment sur grand écran, Turing a inventé Enigma, ancêtre de nos ordinateurs. Et s'il a été recruté, Alan Turing, Hervé Lenning, c'est parce qu'il était évidemment un mathématicien génial, mais aussi un grand amateur, voire un champion de mots croisés. Ça faisait partie des demandes de ceux qui l'ont recruté, c'est
oui,
ça hein.
Oui, c'est pas Alan Turing qui était bon en mots croisés. C'est un des recrutés, deux, je crois plutôt ils en ont recruté deux comme ça. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand vous avez décrypté une partie de... C'est pas uniquement pour Enigma, c'est pour n'importe quel chiffre. Quand vous avez décrypté une partie, il reste des trous. Et les amateurs de mots croisés sont très doués pour remplir ces trous.
Voilà comment un amateur de grilles de mots croisés ou de ceux qui savent faire des mots croisés peuvent être de bons cryptographes. Faut quelle qualité pour être un bon cryptographe, justement ? Il était un génie, mais...
Il faut déjà être têtu.
Ah, faut être têtu. Il faut s'accrocher.
Il faut s'accrocher. Mais les mots croisés, ça marcherait très bien. Ça marcherait très bien avec le code utilisé par Marie-Antoinette, qui ne chiffrait qu'une lettre sur deux.
Alors Marie-Antoinette, elle chiffrait pourquoi ? Pour des messages amoureux, hein, on est d'accord ? Pas seulement.
Pas seulement amoureux, mais amoureux avec Axel de Vercene.
Et donc elle ne chiffrait que... c'était moitié-moitié, c'est ce que vous venez de dire, Hervé.
Une lettre sur deux.
Une lettre sur deux.
La première lettre chiffrée, la deuxième lettre non chiffrée, etc. Et donc, du coup, si vous connaissez la méthode, vous avez les mots avec une lettre sur deux. Si vous êtes un bon cruciverbiste, vous avez deviné le mot, vous avez trouvé le code.
D'accord. Donc, on peut être cruciverbiste et devenir un très bon cryptographe. Quelles sont les autres qualités, à part le fait d'être têtu, peut-être d'aimer les mots croisés, d'être un mathématicien, ça, on l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Parce qu'il y a aussi un côté... Enfin, effectivement, il faut être têtu, mais c'est aussi ludique, c'est aussi un jeu, c'est aussi... c'est assez étonnant, hein, quand on parcourt votre Bible des codes secrets, c'est très, très étonnant.
Oui, il faut aimer les énigmes du genre mathématique. A priori, avant le code RSA dont on parlait tout à l'heure.
Le code RSA, c'est vraiment le code informatique, enfin qui a fait basculer le monde dans l'informatique.
C'est l'informatique, là. Qu'est-ce que je voulais dire déjà ?
Avec ce code RSA, ça a effectivement tout changé pour notre monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on se sert de code, mais ce que vous faites dans ce livre-là, c'est que vous remontez à Hervé Lenning dans l'histoire et qu'on apprend des choses enfin assez anecdotiques, mais très, très étonnantes. C'est aussi une relecture de l'histoire. Vous dites à un moment que Che Guevara utilisait le même code pour communiquer que le téléphone rouge entre soviétiques et américains.
Oui, c'est ce qu'on appelle le masque jetable en français. Comment le décrire ?
Alors oui, c'est compliqué à décrire des codes. Hein.
Oui, en fait, je me posais la question, est-ce que je le décris de façon totalement moderne ? En fait, avec des 0 et des 1.
Oui.
C'est-à-dire, le message, c'est toujours des 0 et des 1. Mm-hmm. Alors, Che Guevara, il ne faisait pas ça. Mais peu importe, c'était la méthode des espions russes aussi. Alors qu'ils utilisaient de façon erronée. Je vais dire comment. Alors, vous prenez des 0 et des 1, et en fait, vous avez une clé qui est aléatoire et de même longueur que le message. Et vous ajoutez les deux chiffres à chiffres, c'est-à-dire sans faire de retenue. C'est-à-dire, si le premier, c'est un 0 pour le message et 1 pour la clé, ça fait 1. Si le premier, c'est 1 et deuxième 1, ça fait 2, enfin pas 2, ça fait 0.
Mais donc, ce système-là, vous dites, était utilisé par les espions soviétiques, était utilisé pour le téléphone rouge, était utilisé par Che Guevara. Donc, en fait, ils auraient pu tous les... Enfin, non, il faut avoir la clé. De toute façon, même si on sait comment ça marche, on ne peut pas le décrypter si on n'a pas la clé, c'est ça ?
Il faut la clé, qui est une clé aléatoire, de très longue, aussi longue que le message. C'est d'ailleurs le défaut de cette méthode, c'est qu'il faut fournir en même temps
un manuel
oui,
un manuel très complet.
Il y a des espions qui ont été arrêtés uniquement parce qu'ils avaient des carnets de chiffres.
Et ça, ça montrait qu'ils utilisaient des codes secrets et qu'ils étaient des espions. Mais les codes secrets, on l'a dit aussi, sont à l'origine presque de notre humanité. Est-ce qu'ils n'étaient pas aussi à l'origine, vous l'avez évoqué, Hervé Lénine, de nos écritures? C'est une légende touareg, notamment, qui raconte ainsi la naissance de l'écriture tifinagh, l'écriture berbère, qui serait partie d'un message codé envoyé par un homme amoureux à sa dulcinée. Légende électrifiée par le groupe Terracaf dans ce morceau à Odd, à écouter son décryptage sur RFI.
جراوانا غاغا هو ضيجان تطناري وين اورهينا من تطناري وين اورهينا من جراوانا غاغا هو ضيجان تطناري وين اورهينا من تطناري وين اورهينا من السلام يكتف الهون ساس السلام جراوانا غاهو ضيجان دخت ناري وين اور هنا مان دخت ناري وين اور هنا مان
Autour de la question sur RFI.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une grande jouissance pour moi de vous présenter ce soir l'extraordinaire numéro de double vue et de transmission de pensée qui va être exécuté devant vous par le Sar Rabindranath Duval. Alors, je ne balance pas plus longtemps pour vous présenter cette extraordinaire et prodigieuse personne, le Sar Rabindranath Duval. Pouvez-vous me dire le numéro du compte en banque de madame?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Il peut le dire,
c'est pas vrai. Et oui, il peut le dire, Pierre Dac, alias Sar Rabindranath Duval, à son complice Francis Blanche. Hervé Lénine, vous citez ce sketch dans votre Bible des codes secrets et pour cause. C'est parce qu'il s'inspire du code, alors soi-disant télépathique, de deux véritables célèbres artistes de music-hall, Mir et Miryoska, dont on n'a jamais réussi à craquer le fameux code télépathique.
Oui, on n'a jamais...
Ils devinaient ce que les gens avaient dans la salle, enfin ils se parlaient et puis ils devinaient.
Mimir regardait ce qu'on lui montrait, ça pouvait être des lunettes, ça pouvait être un carnet de chèques. Et Miroska était censé dire ce qu'il regardait. Et il communiquait tout de même, et il communiquait de façon pas évidente. Il ne disait pas le numéro de compte en banque de monsieur et ceci. Mais dans le sketch, il demande... à Miroska, est-ce que vous pouvez le dire, effectivement. Elle dit, elle peut le dire. Il y a exactement le même truc, mais sauf que, en fait, à la fin, elle donne les quatre derniers numéros qui sont justes.
D'accord, donc ils avaient un moyen, pas télépathique, mais bien codé, de communiquer entre eux, par des mots, par peut-être des gestes, enfin, il y a plein de manières de communiquer.
Oui, j'en donne dans mon livre, qui ne sont pas ceux de Mir et Miroska, parce que Mir et Miroska, on ne sait pas comment ils faisaient.
Alors, quels exemples vous pouvez nous donner, Hervé Lénine?
J'ai donné des exemples. Quand on parle, effectivement. Mm-hmm. Donc, ça peut. Si il faut donner un nombre, on peut très bien le donner à travers les paroles choisies, le nom, ou le nombre de syllabes, ou le nombre de lettres.
On décide ça. Avant, soit dans le nombre de lettres, il faut avoir un code avec son partenaire, c'est ça.
Il y a un code avec le partenaire, et puis il faut être très rapide dans l'utilisation.
Et oui, c'est ça, ça se pratique, hein. C'est comme les prestidigitateurs. Hein.
Il y a des gens qui s'amusent, qui ont des codes comme ça aussi pour...
Pour tricher aux cartes, non? Peut-être bien.
Mais là, c'est contrôler un petit peu les annonces. On pourrait faire des annonces bidons au bridge qui diraient exactement ce qu'il a.
Il faut se méfier hein, des cryptographes autour de la question « Pourquoi tant de codes secrets, Hervé Lenning ?» Je propose maintenant, ainsi qu'à nos fidèles et curieux auditeurs, une petite expérience de codage radiophonique. On est prêt à tout sur RFI grâce à la stéganographie, donc l'art de la dissimulation. Alors, on va dire que la cryptographie, c'est plutôt l'art du secret. Comment rendre intelligible à tous, sauf à qui de droit, un message qu'on veut faire passer. L'art de la stéganographie consiste à faire passer inaperçu un message dans un autre message. Je ne sais pas si vous me suivez. Notre reporter Jérémy Bazar a demandé à un ingénieur en réseau et sécurité, il s'appelle Thomas Vorer, pour la société Nomios, de dissimuler autour de la question notre nom dans un fichier son et ça donne ça.
La stéganographie, au sens large, c'est la dissimulation d'informations. Donc la dissimulation d'informations dans un autre support que celui qui est prévu initialement. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement autour des fichiers numériques, puisqu'on est au XXIe siècle. Mais la stéganographie en tant que telle, ça existe depuis très très longtemps. Si je prends par exemple un exemple, quand on est enfant, on prend une feuille blanche et on écrit avec du jus de citron par exemple. Du jus de citron, c'est invisible à l'œil nu. Ça, c'est de la stéganographie par exemple. On dissimule un message... sur une feuille de papier qui est blanche à l'œil nu, mais qui contient quand même une information. Et on a fait passer comme ça une information à notre destinataire sans que les yeux non avertis puissent lire le message en question.
Donc c'est l'encre sympathique en fait, c'est ça ?
C'est ça. Ça, c'est une forme de stéganographie. Donc on prend le citron, encre sympathique, encre invisible, ça a plusieurs noms, mais c'est le même principe, ouais. C'est ça.
Alors là, on a un petit exemple de stéganographie. Si on part d'un fichier son... Quand on fait un traitement de ce signal sonore, c'est-à-dire lorsqu'on affiche le spectrogramme, donc une représentation graphique sur laquelle on voit donc en vertical les fréquences, les hauteurs du son et horizontalement le temps qui s'écoule, et ben on arrive à découvrir un message secret. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'on voit et comment ça fonctionne ?
Alors effectivement, donc là avec le logiciel, on a affiché un spectrogramme. On voit qu'il y a un message qui est affiché, qui est autour de la question. L'image source où il y avait ce texte-là autour de la question a été pris en entrée par le logiciel, qui a lui-même décidé d'une valeur à affecter au pixel qu'on voyait sur l'image, et a du coup associé une fréquence audio à ce pixel-là, ce qui lui permet d'être visualisé sur le spectrogramme en question. On pourrait imaginer effectivement transmettre un message en format radio à un destinataire qui saurait l'interpréter du coup avec s'il a le bon logiciel. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler de code secret quand on parle de stéganographie ?
Alors, on peut parler de code secret, mais c'est un code secret au niveau de sécurité assez faible finalement. Donc c'est pas la bonne méthode pour transmettre des informations sensibles. C'est à mettre en parallèle avec la cryptographie notamment, qui elle va plutôt chiffrer le message. Et donc là, si on n'a pas la clé, on ne peut pas lire le message en question.
Bon là, je vous traduis parce qu'on n'a pas le spectrogramme sous les yeux de ce son, Hervé Lenning. Là, c'était un peu pour vous ces codes secrets qui étaient stéganographiés discrètement. En tout cas, pour nos auditeurs qui ont envie de voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire, on a posté sur nos pages, notre page Facebook, notre nom autour de la question. Il y a mille et une manières de dissimuler un message. Ce que cet ingénieur disait, alors il a tenu à rencontrer notre reporter Jérémy Bazar dans un café hein, pour être sûr de la sécurité de l'endroit, c'est que sans la clé, impossible de lire un message. Un vrai message qui est codé et bien codé, il y a une clé qu'il est en tout cas très difficile de craquer.
S'il est très bien codé, oui. Mais d'expérience, historiquement, pratiquement tous les codes secrets ont été décryptés.
Ah oui, depuis toujours. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans notre ère numérique, dans notre ère informatique, où les codes secrets sont partout, les clés sont partout, les hackers aussi sont un peu partout, ça pose des vraies questions. Cette question du décryptage, du déchiffrement et du fait de pouvoir craquer finalement presque tous les codes.
Ce que je disais simplement, c'est que dans l'histoire de tous les codes pratiquement qui ont été beaucoup utilisés déjà, ont été décryptés. Maintenant, apparemment, enfin, il y a les fonctionnaires de la NSA savent décrypter pratiquement tous les codes, mais ils ont une méthode qui est pour l'essentiel, ils trichent un petit peu parce qu'ils ont fait mettre dans les logiciels de cryptographie qui sont sous leur contrôle à eux, donc aux États-Unis, des portes dérobées.
Et c'est grâce à ces portes dérobées.
La porte dérobée permet d'outrepasser la clé.
Donc on n'a même plus besoin de la clé, on trouve la clé. Alors pourquoi aujourd'hui, justement, chiffrer ne suffit pas, hein, c'est la preuve avec ce que vous venez de dire sur la NSA, qui est capable de nous espionner, d'espionner tous nos appareils électroniques. Pourquoi chiffrer ne suffit pas pour protéger nos données? C'était même l'objet d'un colloque du CNRS où notre reporter Charlie Dupuy a rencontré une chercheuse, Stéphanie Delaune, chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire de recherche en informatique et systèmes aléatoires de Rennes. On l'écoute.
Alors concrètement, en fait, on utilise tous du chiffrement, donc vous en apercevez peut-être pas, mais si vous faites, une transaction bancaire sur un site internet, vous ne voulez pas que votre code de carte bancaire passe en clair sur le réseau. Donc il va y avoir un protocole qui est utilisé sur ce site internet et qui va être là justement pour chiffrer vos données bancaires, par exemple. Avant d'envoyer vos données, on va justement appliquer ce chiffrement pour les protéger.
Quel type d'attaque, par exemple?
Alors nous, c'est ce qu'on appelle les attaques logiques. Autrement dit, vous avez un message chiffré, vous ne savez pas le déchiffrer, puisque a priori l'algorithme utilisé est robuste, mais vous allez, en l'envoyant à une personne ou en l'envoyant sur Internet à un autre protocole, essayer d'obtenir le contenu de ce chiffrement. Dans le cadre du passeport électronique, il y avait jusqu'à très récemment encore une attaque sur le passeport électronique dans son implémentation française. Et là, c'était une attaque en fait qui permettait de tracer le porteur d'un passeport. Il suffit d'avoir un petit lecteur de carte ou même de mettre une application sur un téléphone mobile. Cette attaque était due en fait à des messages d'erreur trop précis émis par le passeport. Le passeport électronique implémente un certain protocole pour établir une clé afin de chiffrer vos données. Et dans l'implémentation française, des messages d'erreur un peu trop précis sont émis en cas d'échec. Et en fait, en analysant ces messages d'erreur, il était alors possible de tracer le porteur d'un passeport français. Si vous voulez éviter ce genre de choses, en fait, il faut vraiment, ranger votre passeport entre deux feuilles d'aluminium. Et dans ce cas-là, la communication en fait, n'est plus possible.
Vous voulez réagir, Hervé Lenning, à cet éclairage de cette chercheuse spécialiste en sécurité informatique?
Oui. Il y a beaucoup de moyens indirects pour trouver, effectivement, il y a le décryptement proprement parlé, mais il y a aussi beaucoup de méthodes indirectes comme celle-ci.
Et est-ce que vous-même, en tant qu'expert spécialiste de cryptographie, est-ce que vous parvenez à échapper un peu aux hackers, aux fameuses demandes de rançon? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, les demandes de rançon, c'est quelqu'un qui arrive à décrypter vos codes secrets, à tout, et puis ensuite à prendre toutes vos données et ensuite à vous les échanger contre bitcoins et autres monnaies.
Les attaques essentielles ransomware sont faites par phishing, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de décryptement dedans. Simplement...
Ah, on vous attrape, on vous envoie un mail qu'il ne faut pas ouvrir et on vous attrape et du coup...
Voilà, vous ouvrez...
C'est vous-même qui donnez, finalement, vous en rendre compte, vos chiffres,
vos codes. Vous cliquez... En fait, quand vous ne savez pas d'où vient un mail, quand vous vous doutez de la source, il faut cliquer sur rien du tout parce que vous enclenchez à ce moment un petit programme qui va faire des horreurs. En fait, le ransomware le plus courant, c'est de justement chiffrer votre disque dur.
Le coder, finalement, de le chiffrer. C'est
de
ça,
le chiffrer,
hein.
Et de vous proposer la clé pour le déchiffrer contre d'argent.
Oui, donc là, ce sont comment se faire de l'argent grâce au code. Hein, on est d'accord, hein, c'est de ce côté-là, oui. Hervé Lény. Et c'est vrai que du coup, ce qu'on se dit, on est tellement dépendant de nos codes aujourd'hui, de cartes bleues, de téléphones. Enfin, tout est chiffré, tout est numérique, tout est codé aujourd'hui. Est-ce que ça ne rend pas un peu plus, justement, ça ne nous rend pas plus vulnérables, tous, autant que nous sommes? Vous avez parlé de la NSA aux États-Unis, vulnérables à l'espionnage, vulnérables. Oui, vulnérables.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de. Beaucoup de mots de passe, etc., qui ne sont pas forcément bien protégés. C'est souvent les sites, les sites normalement en chiffres, ne stockent pas vos mots de passe directement. Ils codent, ils chiffrent, ils stockent un mot de passe chiffre, qui chiffre eux-mêmes. Et donc, c'est ça qu'ils utilisent. Donc, normalement, on ne peut pas les récupérer comme ça. Mais il y a des sites tout de même qui le font. Il y a une façon de savoir si les sites qui le font et qui ne le font pas. C'est de dire j'ai perdu mon mot de passe. Normalement, normalement on ne va pas vous renvoyer le mot de passe. Si un site vous renvoie votre mot de passe,
c'est pas bon. C'est qu'il est.
Non, c'est pas bon.
C'est qu'il est mauvais. D'accord. Sinon, on vous envoie un lien sur lequel vous cliquez pour changer votre mot de passe. On a bien compris que tout était code, que tout était codé. Et encore, on ne sait pas ce qui nous attend, puisque on parle beaucoup, tout de même, d'ordinateurs quantiques. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu l'arlésienne. Hein. On l'attend, on l'espère ou pas, mais on ne sait pas du tout pour quand c'est. A priori, pas pour demain, peut-être pour après-demain. En tout cas, des chercheurs s'y préparent, parce que là, toutes nos clés et toute notre cryptographie risqueraient d'être mises en danger. C'est en tout cas le cas d'une chercheuse en cryptographie à l'INRIA. Elle s'appelle Maria Naya Plasencia. Elle vient de remporter le prix du jeune chercheur de l'INRIA et de la Académie des sciences pour ses travaux en cryptographie symétrique. Maria Naya Plasencia est interrogée par notre reporter Charlie Dupio sur sa spécialité, la cryptographie symétrique.
La cryptographie symétrique sert à chiffrer l'information en utilisant la même clé pour chiffrer que pour déchiffrer. Si des personnes veulent communiquer, ils doivent se mettre d'accord sur cette clé secrète avant de pouvoir établir la communication sécurisée. On s'intéresse en plus à qu'est-ce qu'il se passerait si jamais il y avait des attaquants quantiques, c'est-à-dire des méchants qui avaient accès à des ordinateurs quantiques qui pourraient essayer de retrouver nos informations. Donc on réfléchit à ce genre de problème.
Mais ils existent déjà, ces ordinateurs quantiques ?
Non, pour l'instant, il y a des petits ordinateurs quantiques, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se développer en ce moment pour essayer de réussir à construire des grandes machines qui pourraient vraiment... faire des tâches qu'on est incapable de faire aujourd'hui.
Et du coup, donc, vous, votre travail, c'est d'essayer d'anticiper ça ?
Oui, c'est faire en sorte que nos données, maintenant, seront chiffrées avec des systèmes qui ne pourront pas être déchiffrés avec des ordinateurs quantiques. Être sûr que les systèmes qu'on construit et qu'on propose d'utiliser maintenant seront résistants aussi dans ces futurs qui est peut-être pas si longtemps que ça, en fait.
Quel regard vous portez sur l'évolution de cette science, de la cryptographie, dans d'autres pays du monde, et notamment dans les pays du Sud ?
Il y a beaucoup de groupes en France, par exemple. C'est un pays très privilégié par rapport à la cryptographie, parce qu'il y a des groupes très forts et très bien. Des groupes de cryptographes, il y en a aux États-Unis, en Europe, il y a aussi d'autres pays. Et depuis quelques années, il y a une conférence qui s'organise tous les ans, depuis 12 ans, voilà. Qui s'appelle Africa Crypt, qui est en Afrique. Et donc, tous les ans, il y a une conférence de cryptographie là-bas. Donc, il y a pas mal de gens de la communauté qui vont. Les gens soumettent des papiers. Il y a des groupes surtout à Maroc. Il y a des gens en Afrique du Sud et en Égypte aussi. Donc, c'est les trois principaux pays qui l'ont organisé. Il y a eu aussi des années où ça s'est passé au Sénégal. Et par rapport à, par exemple, aux pays d'Amérique latine, il y a aussi une conférence un peu sous la même idée qui s'appelle Latin Crypt, qui est plus récente et ça s'organise plutôt tous les deux ans. Donc j'espère qu'il y a plus de gens d'Afrique ou d'Amérique latine qui vont s'intéresser à la cryptographie. Ces conférences vont pouvoir sans doute motiver des étudiants pour travailler aussi et connaître un peu plus le monde cryptographique et vouloir y participer.
Vous êtes d'accord, Hervé Lény, il y a un bel avenir pour la cryptographie et on ne pourrait qu'encourager les jeunes mathématiciens, informaticiens du continent africain ou au Sud à s'y intéresser. Mais en même temps, c'est un sacré boulot. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il y a un bel avenir, ça c'est clair. Il faut être assez matheux tout de même et très têtu, comme je disais déjà.
Il ne faut pas se décourager. Hein.
Mais l'ordinateur quantique, pour l'instant, n'existe pas. Mais on est en train d'essayer... on essaye de se préparer à l'avance à sa possible invention. Parce que pour l'instant, ce sont des jouets hein, qui ont quelques qubits qui sont l'équivalent des bits. Il faut des choses beaucoup plus grosses pour...
Oui, on n'en est pas là du tout, mais en même temps, on sait que s'il arrivait ou s'il émergeait, ouais. ou quand il émergera, si c'est le cas, à ce moment-là, il sera capable, il aura une puissance telle, c'est ça, qu'il sera capable de déchiffrer tous nos systèmes de chiffrement. Enfin, c'est ça.
Enfin, on l'utilise surtout pour les chiffrements asymétriques, justement. Normalement, les chiffrements qu'on utilise sans faire attention sur Internet, sans faire attention, parce que c'est votre navigateur qui fait tout ça. En fait, il y a une clé. Et y a, donc, on utilise en fait un chiffrement symétrique, donc où il y a une clé secrète. La clé doit être secrète. Et cette clé, on l'envoie avec un chiffre asymétrique, comme la méthode RSA.
Ah, pour que ce soit vraiment...
Parce que l'asymétrique, le problème de l'asymétrique, c'est que c'est très lourd.
De l'asymétrique, de ce qui n'est pas symétrique, c'est ça, on est d'accord. À la radio, c'est compliqué. Voilà.
De asymétrique, de ce qui n'est pas symétrique.
Au fond, c'est une question de coffre-fort, en fait. On protège avec de plus en plus de coffres-forts qui, normalement, sont inviolables. Sauf qu'avec l'ordinateur quantique, on ne sait pas si ça restera inviolable.
Alors, on n'utilise qu'un coffre-fort, hein, parce que plusieurs coffres-forts,
ça ne sert à rien.
Ça sert à rien.
Et oui, d'accord.
Donc, mais c'est ça. Donc, en fait, le coffre-fort, c'est le chiffrement asymétrique. Et après, ce qu'on utilise de façon courante, parce que c'est rapide, on fait des chiffrements symétriques.
Quel est votre chiffrement, votre code, ou je ne sais pas, quel est votre code favori, Hervé Lenning, pour terminer cette émission? Il y en a tellement dans votre Bible, on ne peut pas tous les citer, mais vous en avez un petit préféré, là, sous le coude?
Le préféré, c'est le... C'est, en fait, c'est toute une lignée de codes. Mais ce que, c'est celui dont on parlait avec Che Guevara, c'est le code, ce qu'on appelle le masque jetable en français.
Le code du masque jetable. J'inviterai nos auditeurs à aller regarder dans votre ouvrage ce chapitre. Parce le code du masque jetable.
On a dit le masque jetable, c'est tout. Pourquoi jetable? Parce qu'il faut l'utiliser qu'une fois. En fait, c'est le masque, c'est la clé. En fait, et on jette la clé à la fin, après chaque usage.
Et là, effectivement, personne ne peut la récupérer, cette clé, du coup.
Et oui, parce que effectivement, ce qui est amusant, c'est que si on ne connaît pas bien la théorie, on peut l'utiliser deux fois, et quand on l'utilise deux fois, ça ne vaut plus rien.
Pour s'exercer à la cryptographie, à décrypter tous les messages, pour s'amuser aussi, pour s'instruire, la Bible des codes secrets. Votre ouvrage, Hervé Lenning, est à lire, à étudier, à pratiquer, à jouer, pour se tester en codes secrets. Il est paru aux éditions Flammarion. Je signale aussi aux amateurs, en prolongement de votre Bible, l'exposition Espion à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette à Paris jusqu'en août 2020. Merci Hervé Lenning et bon code hein.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs et auditrices, pour parler d'amour, mais aussi de sexe à l'ère numérique, dans une autre exposition, cette fois-ci au Palais de la Découverte sur l'amour. Sacré programme à suivre avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.
Vous les avez entendus au début.